15. Certains s'affaiblissent dans la foi parce qu'ils surveillent leurs symptômes. Au lieu de surveiller leurs symptômes, ils devraient, comme Abraham, se fortifier dans la foi en regardant les promesses de Dieu. Beaucoup de gens fondent leur foi sur ce qu'ils sentent, au lieu de la fonder sur la parole de Dieu. Dieu a voulu que notre foi s'appuie seulement sur sa parole. 16. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils ne mettent pas leur foi en action. La foi sans les œuvres est morte. Dieu n'agira pas, si nous ne possédons pas une foi véritable, qui se montre dans nos actions. Avoir foi en Dieu, c'est compter sur la fidélité de Dieu. Le plein exercice de la foi signifie que nos pensées sont des pensées de foi, que nos paroles sont des paroles de foi, et que nos actes sont des actes de foi. Jésus a dit à l'aveugle « Va te laver dans la piscine de Siloé ». En accomplissant cet acte, cet homme a pu avoir une occasion d'exercer la foi dans son cœur, ses pensées et son corps. Il n'a pas été guéri tant qu'il n'a pas d'abord manifesté sa foi de manière concrète. Il a cru qu'il possédait sa guérison, avant qu'elle soit manifestée. Il en fut de même pour Naaman, le général lépreux, et aussi pour les 10 lépreux, auxquels Jésus avait dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il est écrit qu'ils furent guéris en chemin. Il leur fut demandé d'exprimer concrètement leur foi, dans leur cœur, leurs pensées et leur corps, avant que leur guérison soit manifestée. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils veulent que ce soit le contraire, et que leur guérison soit manifestée avant qu'ils expriment concrètement leur foi. 17. D'autres abandonnent leur assurance lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Ils n'ont pas compris que l'épreuve de leur foi devait perfectionner leur foi, non la détruire, comme dans le cas d'Abraham. Nous n'obtenons notre rémunération, et ce qui nous a été promis, que si nous conservons notre assurance, et si nous gardons jusqu'à la fin la confiance que nous avions au commencement. Hébreux 10, 35. Si la parole de Dieu est notre seule raison d'avoir la foi, aucune autre raison ne doit nous faire abandonner notre assurance et notre confiance. 18. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils négligent d'être remplis du Saint-Esprit, qui nous a été donné pour manifester en nous les bénédictions attachées à la rédemption. Dans Romains 8, 11, Paul dit que notre corps mortel doit être rendu à la vie par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que nous sommes morts en Jésus-Christ, notre corps mortel est juridiquement mort, bien qu'il ne le soit pas en réalité. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui opère la guérison, nous pouvons dire qu'il est comme un charpentier qui répare notre maison. Certains refusent de laisser entrer le charpentier dans leur maison, tout en lui demandant de la réparer. Paul a dit le corps est pour le Seigneur, avant d'ajouter le Seigneur est pour le corps. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant Romains 12, 1, et accepter qu'il devienne le temple du Saint-Esprit, si nous voulons qu'il soit guéri. Toutefois, cette cause d'échec ne s'applique pas en général à ceux qui n'ont pas été enseignés sur le privilège qu'ils ont à pouvoir être remplis du Saint-Esprit. 19. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils s'imaginent avoir la foi pour être personnellement guéris, alors qu'ils ne font que croire à la doctrine de la guérison divine en général 20. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils ne reçoivent pas la parole écrite de Dieu comme une parole qui les concerne directement et personnellement. Ils ne comprennent pas que, pour la foi, la parole de Dieu est comme la voix de Dieu. Dans le psaume 138, nous lisons « Je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » 21. Certains ne croient pas que leur prière pour être guéris a été exaucée, tant qu'ils ne sentent pas ou ne voient pas la réponse. Christ n'a pas promis que notre guérison commencera à se manifester avant que nous ayons cru qu'il a entendu notre prière. Certains pensent qu'ils doivent toujours continuer à prier et ne croient pas que leur prière a été entendue, tant qu'ils ne voient rien. C'est exactement le contraire de ce que Dieu demande. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. Si cela est vrai, nous devons donc croire que notre prière a été entendue au moment où nous prions vraiment. Nous devrions pouvoir alors dire « Je sais que je possède la chose que je lui ai demandée, Non pas parce que nous voyons la réponse manifestée, mais parce que Dieu est fidèle, et que c'est lui qui le fera. 2 Thessaloniciens 5:24. Abraham n'a pas continué à prier sans cesse pour la naissance d'Isaac, jusqu'à ce qu'il naisse. Au contraire, il est resté dans la foi, glorifiant Dieu pour sa parole. Jésus, devant la tombe de Lazare, avait fini de prier. Il dit « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, avant même que Lazare sorte de sa tombe. » Josaphat et les enfants d'Israël avaient fini de prier, et se mirent tous à louer à haute voix l'Éternel, pour l'exaucement de leur prière, avant même de sortir à la rencontre de 3 fortes armées ennemies. Leur foi était bien l'assurance des choses qu'ils ne voyaient pas. Hébreux 11:1. Les 120, dans la chambre haute, avaient fini de prier. Ils louaient et bénissaient continuellement Dieu, lorsque le Saint-Esprit fut déversé sur eux. Lorsqu'un malade a reçu l'onction d'huile pour sa guérison, il doit normalement s'arrêter de prier, s'il a réellement la foi. Il ne doit plus désormais que louer et remercier le Seigneur, jusqu'à la manifestation de sa guérison. Je dois ajouter toutefois que cela ne signifie pas que l'on ne doive plus rien faire, lorsqu'on a confié son problème au Seigneur dans la foi. Notre foi doit rester active, comme celle des Israélites lorsqu'ils marchaient autour des murailles de Jéricho en soufflant dans leurs trompettes, ou celle de Josaphat et ses hommes, lorsqu'ils allèrent sur le champ de bataille en chantant les louanges de Dieu. La guérison des 10 lépreux est intervenue au moment où ils mettaient leur foi en action. Nous nous fortifions dans la foi, comme Abraham, lorsque nous regardons continuellement à la promesse de Dieu. Si nous laissons notre foi devenir inactive, elle s'affaiblira. Si nous la gardons active, elle se fortifiera continuellement. 22. Certains gênent l'action de Dieu en faisant dépendre leur foi de l'amélioration de leur état, après la prière, au lieu de la faire dépendre de la promesse du Seigneur. Ils ne comprennent pas que la parole de Dieu est la meilleure raison possible pour avoir la foi. Dieu veut entraîner chaque chrétien à croire à sa parole, même quand tout ce qu'il peut voir est en contradiction avec sa promesse. Amen, et Amen. Chapitre 10 Les chardes de Paul. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12:7-10. L'un des arguments les plus fréquemment avancés contre le ministère de la guérison divine concerne les chardes de l'apôtre Paul. Une tradition amène à une autre. L'Église a largement accepté les doctrines enseignant que Dieu est l'auteur de la maladie, et qu'il désire que certains de ses enfants restent malades pour le glorifier en faisant preuve de patience et de grandeur d'âme. Il ne fait pas de doute que cela a conduit à l'idée que Paul souffrait de quelque maladie que Dieu n'a pas voulu guérir. Mais nous croyons que ceux qui prendront le temps de lire tout ce que Dieu dit au sujet de la maladie, n'aboutiront jamais à une telle conclusion. Je veux bien reconnaître que des hommes de Dieu tout aussi consacrés les uns que les autres peuvent défendre des points de vue différents, non seulement sur ce point, mais sur l'ensemble du problème de la guérison divine. Ce n'est qu'une question d'étude et de recherche. Beaucoup d'hommes de Dieu sincères, qui enseignent que le temps des miracles est passé, ou d'autres traditions semblables, ont négligé d'étudier ce que la Bible enseigne sur la guérison, croyant que cela ne concerne plus notre époque. Nous avons été très critiqués. Mais aucun de nos critiques n'a jamais tenté de répondre aux arguments scripturaires que nous présentons dans nos prédications. En revanche, nous avons publiquement réfuté leurs arguments, en nous appuyant sur la Bible. Nous ne nous sommes pas souciés de dévoiler les noms de nos contradicteurs ni de tenter de nous venger, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Nous préférons ne pas toucher à des serviteurs de Dieu, et laisser le Seigneur nous défendre. L'argumentation absurde d'un certain homme d'église. Avant d'étudier le sujet de l'écharde de Paul, je voudrais citer quelques extraits d'une prédication faite par un certain homme d'église de New York, très connu. Il a lui-même rédigé un traité à partir de cette prédication, et l'a fait distribuer en grand nombre dans tout le quartier où nous tenions nos réunions de réveil, pour combattre notre enseignement sur la guérison, dont il ne connaissait pratiquement rien, ne nous ayant jamais ni vu ni entendu. Voici certains de ses arguments. C'est un fait que Paul était malade. C'était le plus malade des hommes. Il avait l'une des pires maladies orientales, une ophtalmie purulente, une maladie des yeux. Les preuves en sont évidentes. Il nous dit lui-même qu'il avait une écharde dans la chair lorsque Paul est apparu aux Galates, les yeux remplis d'un pus affreux qui lui coulait le long du visage. Ils lui ont dit qu'il se serait même arraché les yeux pour les lui donner. Galates 4:15. Pourquoi aurait-il dit cela, si les yeux de Paul ne leur avaient vraiment pas fait pitié? Cette maladie provoque d'ailleurs des douleurs insupportables, qui ressemblent à celles que procurent des échardes dans les yeux. Il ne fait aucun doute que Paul était un homme malade. Il l'avoue lui-même. Paul n'a pas attrapé cette maladie par contagion. C'est Jésus-Christ lui-même qui la lui a donnée. Paul ne voulait pas être malade. Il a prié le Seigneur de le guérir de cette maladie. Il a prié non pas une fois, ni deux, mais trois fois. Mais il n'a pas été exaucé. Malgré toutes ses prières, il n'a pas été guéri. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur a dit à Paul une chose très étonnante. Il lui a dit « Ma grâce te suffit ». Il a dit à Paul qu'il valait mieux pour lui qu'il reste malade. Il lui a dit qu'il ne voulait pas le guérir. Il lui a dit que la puissance divine pouvait bien mieux agir au travers de lui s'il restait malade que s'il était guéri. Lisez ce que Paul répond au Seigneur, concernant son infirmité, et concernant la volonté de Dieu de ne pas le guérir. Voici ses propres paroles. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » En fait, voici ce que Paul veut dire. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mon ophtalmie. Qu'importe si mes yeux sont remplis d'un pus dégoûtant, qu'importe si je fais pitié aux gens, qu'importe, je m'en glorifie, je me réjouirai de ma maladie en maintenant son apôtre dans cette pénible affliction de la chair. » Le Seigneur a signé sa protestation divine contre cette affreuse doctrine qui transforme grossièrement la croix de Christ en un centre de guérison physique. Pour répondre aux arguments de notre frère, je dirai tout d'abord que l'expression « écharde dans la chair » est toujours utilisée comme illustration symbolique, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Jamais, dans la Bible, l'image de l'écharde dans la chair n'est utilisée pour désigner une maladie. Chaque fois que la Bible utilise cette expression, elle précise aussi clairement en quoi consiste cette écharde dans la chair. Par exemple, dans Nombre 33:55. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Avant qu'ils n'entrent dans le pays de Canaan, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines ou des échardes dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Dans ce passage, la Bible dit clairement que ces épines dans les yeux des Israélites, ou ces aiguillons dans leurs côtés, seront les habitants de Canaan, et non pas une maladie des yeux. Cela ne veut pas dire que Dieu a planté les Cananéens dans les yeux ou dans les côtés des Israélites. Dieu employait une image, pour montrer que les Cananéens seraient un problème permanent pour les Israélites, s'ils n'étaient pas chassés du pays, de même qu'une écharde plantée dans l'œil est un problème permanent. Les Cananéens seraient une écharde pour Israël. Josué, 8 années plus tard, dans Josué 23, 12-13, parle des nations païennes de Canaan en ces termes. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Là encore, nous voyons que le fouet dans leurs côtés et les épines dans leurs yeux seraient les Cananéens, et non pas des yeux ou des côtés malades. La nature de ces épines est clairement précisée. Dans les dernières paroles de David, nous lisons « Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette » de Samuel 23:6. Ainsi, sans exception, les épines, ou échardes, sont toujours des personnes. Saint-Paul déclare précisément quelle est la nature de son écharde. Il dit que c'est un ange de Satan. Chaque fois que cette expression est employée, la Bible indique donc clairement la nature de cette écharde. Paul, en ce qui le concerne, dit qu'il s'agit d'un ange de Satan. Le mot grec angelo peut être traduit par ange, ou messager. Ce mot apparaît 188 fois dans la Bible. Il est traduit par ange 181 fois, et par messager 7 fois. Dans chacun des 188 cas, ce mot désigne une personne et non une chose. Un ange, ou messager est toujours une personne que quelqu'un envoie. Ce n'est jamais une maladie. L'écharde de Paul était un ange de Satan? Non seulement Paul nous dit que cette écharde était un ange de Satan, mais il nous dit aussi ce que cet ange était venu lui faire le souffleter. Souffleter signifie donner coup après coup. Ce ne peut pas être le cas d'une maladie physique. Cet ange était une personne, un esprit au service de Satan. Paul utilise d'ailleurs un pronom personnel pour parler de cet ange. Dans le même passage, Paul énumère une longue liste de problèmes pour montrer de quelle manière il était souffleté, mais il ne donne pas le nom d'une seule maladie. Ainsi, puisque Paul lui-même dit clairement que son écharde était un ange de Satan envoyé pour le souffleter, un esprit démoniaque envoyé par Satan pour lui causer toutes sortes d'ennuis partout où il passait, pourquoi faudrait-il que nous disions que c'était quelque chose d'autre? Les souffrances de Paul. Peu après la conversion de Paul, Dieu dit au disciple Anania « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il ne s'agissait pas de maladie, mais de persécution, que Paul définit comme étant ses soufflets. Paul avait persécuté les chrétiens de lieu en lieu. À son tour, il devait lui-même subir des persécutions semblables, et même de plus grandes encore. Paul décrit en quoi consistaient ces persécutions causées par l'ange de Satan qui le souffletait. Il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » de Corinthiens 12:10. Paul mentionne en premier lieu ses faiblesses, car il a conscience, comme tout chrétien doit le faire, de son incapacité personnelle à résister par ses propres forces à un messager de Satan, et pour traverser en vainqueur les outrages, les calamités, les persécutions, et toutes les autres épreuves qu'il mentionne par ailleurs. C'est pourquoi il a supplié par trois fois le Seigneur de le libérer de cet ange qui le souffletait si violemment et de manière si variée. Christ a répondu à cette triple prière non pas en écartant ce messager de Satan, mais en disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La grâce du Seigneur est pour notre être intérieur. Lorsque Paul a vu que la grâce de Dieu était suffisante pour le rendre capable de supporter toutes ces choses, il s'est exclamé « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La puissance de Christ n'aurait pas pu se manifester parfaitement dans la faiblesse de Paul, si le Seigneur l'avait laissé dans sa faiblesse, qu'elle soit spirituelle ou physique. Si la puissance de Dieu n'était pas donnée à un homme quand il est faible, comment ce dernier pourrait-il être puissant? Paul avait compris que la grâce de Dieu faisait concourir à son bien, et à la propagation de l'Évangile, toutes ses épreuves, et même ses emprisonnements. Quel serviteur de Dieu n'a-t-il pas appris, probablement plus d'une fois, que la puissance de Dieu repose sur lui avec d'autant plus de force qu'il est davantage conscient de sa propre faiblesse? Parce qu'il dépend alors, non de ses propres forces, mais de la puissance de Dieu. La grâce nous est donnée pour des faiblesses spirituelles et non physiques. Paul enseigne clairement que c'est la vie de Jésus qui doit se manifester dans nos corps mortels. Mais les Écritures ne disent jamais nulle part que Dieu donne sa grâce à nos corps. Le terme même de grâce montre que c'est notre être intérieur qui a besoin d'être secouru, parce que la grâce de Dieu n'est communiquée qu'à notre être intérieur. C'est lui qui se renouvelle chaque jour. En d'autres termes, la grâce est pour des infirmités spirituelles et non physiques. De même que les Cananéens, comparé à des épines dans les yeux des Israélites et à des aiguillons dans leur côté, ne représentait pas des maladies physiques. De même, l'ange de Satan n'était pas situé à l'intérieur du corps de Paul, car l'apôtre n'avait sûrement pas de démon dans son corps. La grâce et la miséricorde de Dieu nous sont toujours données pour nous permettre de supporter les persécutions et les tentations, mais pas pour supporter nos maladies et nos péchés, car Jésus s'en est chargé à notre place. Dieu n'a jamais promis aux chrétiens qu'il n'aurait jamais de persécutions et de tentations. Mais il nous donne la grâce de pouvoir les supporter. En revanche, il s'est toujours montré prêt à enlever et à détruire les péchés et les maladies, qui sont les oppressions et les œuvres du diable dans notre vie. Car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes 10, 38. Dieu nous a promis que tous ceux qui veulent vivre saintement seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Mais il n'a jamais dit qu'ils resteraient malades, selon les enseignements anti-bibliques que l'on entend si souvent aujourd'hui. Ces enseignements nient la vérité des Écritures. Il est certain que Paul a utilisé l'expression « écharde dans la chair » en s'inspirant de l'Ancien Testament. Car cette expression illustre bien des afflictions externes et non internes au corps. Si les faiblesses dont parle Paul étaient des infirmités physiques, et s'il était le plus malade des hommes, comment peut-il dire lui-même qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres? Si le plus malade des hommes peut travailler bien plus qu'un homme en bonne santé, alors prions pour être malade, afin que nous aussi nous puissions travailler davantage pour Dieu. Paul énumère les mauvais traitements qu'il a subis. Si l'écharde de Paul était une ophtalmie purulente qu'il ne mentionne jamais, alors qu'il s'agissait de mauvais traitements répétés qu'il mentionne clairement, pourquoi ne dit-il pas qu'il se plaît dans la maladie? Paul énumère en détail les souffrances que lui faisait subir cet ange de Satan. Ce sont des faiblesses, des outrages, des calamités, des persécutions et des détresses, pour Christ. En outre, au chapitre 6 de la même épître, il parle de coups, d'emprisonnement, de sédition, de travaux, de veille, de jeûne, d'ignominie, de mauvaise réputation étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6 410. Au chapitre 11, il dit par les travaux, par les coups, par les emprisonnements souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens 11 23 27. Nous sommes maltraités, errant ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. 1 Corinthiens 4 12 13. Des questions importantes. Qui pouvait donc être responsable de toutes ces souffrances, sinon l'ange de Satan? Dans son énumération, nous constatons que Paul mentionne toutes sortes de tribulations imaginables, sauf justement les maladies, notamment l'ophtalmie. La tradition s'est donc emparée du seul élément que Paul ne mentionne pas, pour transformer son écharde en maladie. Bien que beaucoup d'hommes de Dieu croient en cette fausse doctrine, je crois que cette perversion des Écritures, qui a abouti à transformer l'écharde dans la chair de Paul en maladie, a certainement été inspirée par Satan, parce qu'elle lui permet de continuer à affliger et à tourmenter impunément les êtres humains, en les gardant dans la maladie. Puisque la guérison est un élément essentiel de l'Évangile, comment Paul aurait-il pu dire qu'il bénéficiait de la pleine bénédiction de l'Évangile Romains 15 29, pour chercher à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, S'il était resté malade, la guérison ne fait-elle pas partie de la bénédiction de l'Évangile? Si l'on devait admettre que Paul était le plus malade des hommes, et qu'il souffrait d'ophtalmie, n'est-il pas étrange que les Éphésiens aient pu avoir la foi pour que Paul accomplisse parmi eux des miracles extraordinaires Actes 19 11 12, s'ils avaient vu du pu couler le long de son visage, et constater que Dieu ne voulait pas le guérir? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Aujourd'hui, si l'on recevait des linges qui avaient touché quelqu'un souffrant d'ophtalmie, non seulement on ne les appliquerait pas sur le corps des malades, mais on les brûlerait bien vite par crainte de la contagion. Le cas du boiteux de Lystre. Si le boiteux de Lystre acte 14 8 10, en entendant Paul prêcher l'évangile, avait vu ses yeux dégoulinant de pus, un tel spectacle aurait-il pu lui donner assez de foi pour être instantanément guéri? Il est écrit il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il se leva d'un bond et marcha. Ce boiteux, qui n'avait jamais vu un miracle ni entendu l'évangile, aurait-il pu avoir ainsi la foi pour être guéri, s'il avait été devant le plus malade des hommes, que Dieu ne voulait pas guérir? Comment un tel homme aurait-il pu dire car je n'oserais mentionner autre chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Nilirie Romains 15 18 19. Je le répète, comment un tel homme, s'il avait eu une maladie aussi repoussante, aurait-il pu guérir tous les malades de l'île de Malte Actes 28 8 9, s'il était vrai que la puissance de Dieu aurait pu bien mieux agir au travers de lui s'il avait été malade, que s'il avait été en bonne santé? Est-ce que les malades se glorifient de leur maladie? Pourquoi ceux qui enseignent que Paul se glorifiait d'être le plus malade des hommes de Corinthiens 12 9 ne se glorifient-ils pas de leur propre maladie, au lieu de faire tout ce qu'ils peuvent pour s'en débarrasser? S'il faut se glorifier d'une telle écharde, pourquoi courir chez un médecin ou un chirurgien pour l'enlever? Quelle était la raison de l'écharde de Paul? Paul dit que les souffrances qui lui étaient infligées par l'ange de Satan ont été permises pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues de Corinthiens 12 7. Si les malades doivent regarder comme leur écharde la maladie dont ils ne parviennent pas à guérir, et sans raison de l'abondance des révélations qu'ils ont reçues, ou pour qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Puisque l'écharde de Paul ne l'a pas empêché d'avoir la foi pour guérir les malades, il devrait en être de même pour nous. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Aujourd'hui, on devrait plutôt dire que la foi s'en va à cause de ce que l'on entend, à cause de ces doctrines insensées que l'on entend cette erreur si commune concernant l'écharde de Paul mutile les évangiles, et détruit les fondations sur lesquelles la foi des malades devrait s'appuyer pour être guérie. Nous avons remarqué que ceux qui combattent la guérison divine sont les premiers à faire remarquer le moindre défaut physique de ceux qui l'enseignent. Cependant, ils admettent tout à fait que Paul puisse avoir un si gros défaut physique, lui qui pourtant enseignait la guérison divine. De tels contradicteurs n'auraient-ils pas tourné en ridicule le ministère de l'apôtre Paul, s'il l'avait vu guérir les malades, alors que lui-même était soi-disant défiguré par une maladie repoussante? L'écharde de Paul ne l'a pas empêché de travailler. Les Écritures nous montrent que l'écharde de Paul ne l'a pas empêché de travailler plus que tous les autres apôtres. Alors que ceux qui enseignent que cette écharde était une maladie sont souvent complètement paralysés par leur écharde, au point que l'on doit souvent les prendre entièrement en charge, ce qui augmente le travail des autres, c'est l'apôtre Paul qui a tellement insisté sur le fait que nous devions être zélés pour les bonnes œuvres. Comment les multitudes de chrétiens malades, cloués au lit par leur écharde, pourraient-ils être zélés pour les bonnes œuvres? Il est vrai que Paul l'a écrit aux Galates Galates 4 13 « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Il s'agissait probablement là d'une infirmité physique. Mais cela ne signifie pas que Paul ait gardé cette infirmité, comme l'indique l'expression « pour la première fois ». Certains pensent que Paul faisait référence à la lapidation qu'il venait de subir à Lystre. Lorsque Christ a dit à Paul « Ma grâce te suffit », si cela avait voulu dire que Paul devait rester malade, cela aurait été la seule et unique fois dans la Bible où Dieu aurait dit à un malade de garder sa maladie. Alors que les Écritures montrent abondamment que Dieu les guérissait tous. Même si Paul avait été l'unique exception qui confirme la règle, pourquoi mettre toujours en avant l'exception, et non la règle, quand on parle de guérison des malades? L'écharde de Paul ne l'a pas empêché d'achever sa course de Timothée 4:7, alors que cet enseignement erroné concernant l'écharde de Paul a envoyé dans la tombe et à une mort prématurée des multitudes de malades, souvent après d'atroces souffrances. Quelle horrible tragédie si souvent répétée! La prédication de Paul stimulait la foi. Par exemple, c'était la prédication de Paul aux Éphésiens qui leur a donné la foi pour avoir les miracles extraordinaires qu'il mentionne. Paul leur a lui-même dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu », sans en rien cacher Actes 20:27. Si les prédicateurs actuels annonçaient tout le conseil de Dieu, ils enseigneraient sûrement tous la guérison divine. Dans Romains 15:18-20, Paul dit qu'il a abondamment répandu l'évangile de Christ, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. 25 ans après avoir été appelé à être apôtre, il écrit aux Corinthiens « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades » 1 Corinthiens 11:30. Si l'écharde de Paul avait été une infirmité ou une maladie, il lui aurait probablement répondu « Pourquoi donc es-tu toi-même infirme et malade ?» C'est ce même Paul qui a écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» 1 Corinthiens 6:19 « Vos corps sont les membres de Christ » V15. Nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Éphésiens 5:30. Nous avons les prémices de l'Esprit. Romains 8:23. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. De Corinthiens 4:11. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels et non morts par son esprit qui habite en vous. Romains 8:11. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 6:13. C'est ce même Paul qui a dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui Christ qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. De Corinthiens 1:20. En d'autres termes, toutes les promesses de Dieu, y compris les promesses de guérison, doivent leur existence et leur puissance à l'œuvre expiatoire que Christ a accomplie pour nous tous. Paul savait faire la différence entre un miracle et une guérison. Il ne croyait pas que tout le monde serait instantanément guéri, parce qu'il a laissé Trophime malade à Milet. Et qu'Épaphrodite a été malade, et tout près de la mort, pour l'œuvre de Christ, c'est-à-dire qu'il s'est surmené pour suppléer à l'absence des Philippiens. Philippiens 2:27-30. Épaphrodite n'a pas été guéri instantanément. Paul n'était pas un fanatique qui ignorait les lois naturelles de Dieu concernant la santé, car il recommande à Timothée de prendre un peu de vin, à cause de ses fréquentes indispositions. Paul croyait que les malades devaient eux-mêmes avoir la foi pour être guéris. Il n'a demandé au boiteux de Lystre de se lever qu'après avoir vu que ce dernier avait la foi pour être guéri. Jésus lui-même ne put faire aucun miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité des habitants. En conclusion, on peut s'étonner que tant de prédicateurs de l'Évangile mettent de côté tous les enseignements de la Bible concernant la guérison, et qu'ils mettent au contraire en avant, dans leur prédication, l'unique passage parlant de l'écharde de Paul. Gardons constamment à l'esprit que le Seigneur Jésus, à la croix, s'est chargé de nos maladies comme de nos péchés, et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le ministère de guérison de Jésus-Christ nous a pleinement révélé la volonté de Dieu pour notre corps. Ne laissons pas les traditions des hommes nous priver de la bénédiction. Chapitre 11 Témoignage. Une guérison miraculeuse conduit beaucoup d'âmes au salut. Les témoignages suivants attirent l'attention sur les bénédictions spirituelles et physiques qui suivent constamment la guérison d'une seule personne. La conversion dans et fit que tous les habitants de Lydde et du Saron se tournèrent vers Dieu. Sa guérison fut tout aussi importante que la conversion de Deville. Grâce à la guérison du boiteux de naissance qui était à la belle porte du temple, 5000 personnes se convertirent. Ceux qui ont été guéris reçoivent toujours une visitation de l'esprit et une compassion pour les autres qui les poussent à rechercher le salut de ceux qui les entourent, et à leur dire qu'ils peuvent eux aussi recevoir d'un Dieu qui les aime la guérison de leur corps. Nous recevons constamment des témoignages concernant ces bénédictions en chaîne. Sauvé et guéri de sa propre maladie, Madame J.B. Long, de Pittsburgh, en Pennsylvanie, chercha à accomplir la promesse qu'elle avait faite à Dieu, de porter le message de la guérison divine à certains de ses amis malades. Poussée par le Saint-Esprit, elle alla d'abord demander la guérison pour elle-même. Après avoir reçu l'onction d'huile, elle décida d'être une bénédiction spirituelle pour les autres. Elle accomplit fidèlement sa promesse, par sa détermination à annoncer l'évangile et la guérison à ceux qui sont malades dans leur âme et dans leur corps. Les âmes sauvées et les corps guéris donnent l'assurance bénie du bonheur à ceux qui étaient enténébrés et oubliés. Voici son témoignage. Sourde d'une oreille et les genoux brisés il y a plus d'un an, j'ai été guéri d'une surdité complète à l'oreille droite, et aussi de rotules brisées. Ma surdité avait été causée par une dépression nerveuse que j'avais depuis plus de 10 ans, et qui m'avait laissé cette surdité depuis plus de 5 ans. Un soir, en me rendant à mon église en compagnon de Mademoiselle Taylor, je tombai et me cassai les deux rotules. Cela me causa de grandes souffrances, qui empiraient tout le temps. Je pouvais à peine monter et descendre des escaliers. Maintenant, gloire à Dieu, je peux courir, j'habite en haut d'une colline, et, pour prendre le tramway, il me faut descendre un escalier de 185 marches. Je souffrais atrocement en me tenant à la rampe et en m'efforçant de descendre. Maintenant, je peux descendre en courant, et je ne descends jamais ces escaliers sans élever mon cœur à Dieu pour le remercier sincèrement de ce qu'il a fait. Ce fut au cours de la première campagne du frère Bozo Hort à Pittsburgh que je fus guéri. J' était assise, pendant la réunion, admirant le merveilleux spectacle de tous ceux qui étaient sauvés et guéris. J'étais converti depuis 38 ans, alors que j'étais une toute petite fille. Il me vint la pensée qu'il serait doux de pouvoir apporter le message de la guérison divine à certains de mes amis malades. Mais je me dis aussitôt qu'il me serait difficile de leur porter ce message de guérison, si je ne pouvais pas leur donner mon propre témoignage. C'est ce qui me décida. Sans hésiter, je m'approchai de l'estrade, et je reçus l'onction d'huile pour mes propres maladies. Les frères Bozo Hort et Whitesides prièrent pour moi, et je fus instantanément guéri. Ma guérison fut totale, et je n'ai jamais plus éprouvé de douleur, depuis un an que je suis guéri. J'avais été sauvé pour servir, et je voulais être guéri pour mieux servir le Seigneur. En remontant la rue de Loyos soyons là pour prendre le tramway, il me sembla soudain que j'étais dans un autre monde. Je crois que Dieu me renouvela aussi dans le baptême du Saint-Esprit, par la même occasion. Cette année passée a été la plus merveilleuse de ma vie, car Dieu, dans sa grâce, m'a utilisé pour son service. Il y a vraiment de la joie à servir notre roi. Ma guérison a été suivie de bien plus de bénédictions spirituelles, et Jésus-Christ m'est plus proche et plus cher que jamais auparavant. J'ai découvert que le grand secret de cette joie vient du fait de témoigner de la puissance de Dieu. Le soir même où j'ai été guéri, j'ai témoigné à un membre de mon église dans le tramway. Je savais que cela serait connu. La semaine suivante, mon pasteur me prit à part, me parla de ce qu'il avait entendu, et me demanda si c'était vrai. Je lui dis que c'était vrai. Il n'était pas d'accord avec moi au début, mais lorsque je lui montrai les Écritures Matthieu 8, 16, 17, il fut pleinement convaincu par le Seigneur. La semaine suivante, nous avons commencé une série de réunions, et ce fut le plus beau réveil que j'ai jamais connu. Chaque soir, notre pasteur a parlé de la guérison divine. Nous avons invité ceux qui cherchaient le salut et la guérison. Le pasteur faisait l'onction d'huile, et le frère Ouvet et moi, nous imposions les mains aux malades. Beaucoup furent guéris au moment où nous avons prié pour eux. Il me semblait que je n'étais qu'un vase vide aux pieds du maître, prête à être remplie et utilisée à son service. Le lendemain de ma guérison, je demandai au Seigneur de m'envoyer vers quelqu'un qui avait besoin d'être guéri, pour que je puisse lui raconter mon histoire. Le visage d'une amie me vint à l'esprit, celui de Madame Sadie Robinson. J'allais la voir et la trouver au lit, malade depuis plusieurs semaines. Le lendemain, le frère Ouvet nous offrit l'aide de sa voiture, et nous amenâmes mon ami à l'endroit où se tenaient les réunions du frère Bozo Hort. Il l'oignit d'huile, et elle fut guérie. Il en résulta que 4 personnes de sa famille se convertirent. L'une de ses voisines, Madame Bigley, très malade depuis 30 ans, et dont le témoignage suit, entendit parler de la guérison de Madame Robinson, et la fit venir, avec moi-même. Nous passâmes l'après-midi à étudier la Bible ensemble. Elle avait très soif de connaître la vérité. Je retournai la voir quelques jours après avec Fred Collin, qui avait été guéri pendant les réunions du frère Bozo Hort, avec Monsieur Ouvet, et le pasteur Baptiste Créameur. Nous priâmes pour Madame Bigley en l'oignant d'huile, et elle fut guérie. Cela se passait un samedi. Le mardi suivant, elle était debout, parfaitement guérie, sans aucun signe de sa maladie passée. Elle rayonnait de joie. Son fils aussi se convertit au Seigneur Jésus-Christ et fut guéri au cours des réunions du frère Bozo Hort. Je crois que la chose la plus importante dans notre vie chrétienne est une obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Il est merveilleux de faire partie des amis du Seigneur. Bien que cela puisse nous couper de ceux qui nous entourent, il nous est pourtant doux de savoir qu'il nous approuve. Mademoiselle Taylor confirme le témoignage de Madame Long. Je connais bien Madame Long. Nous allons à la même église, et j'étais avec elle le soir où elle est tombée et où elle s'est cassée les deux rotules. Depuis qu'elle a été guérie, elle n'a plus jamais eu de problème avec ses genoux. Mademoiselle Taylor. Témoignage de Madame Sadie Robinson. Au début de l'automne de l'an dernier, je tombais gravement malade. J'eus une dépression nerveuse et de sérieux problèmes internes. Je dus rester chez moi pendant 2 semaines, suivi par l'un de nos meilleurs médecins. Parfois il me semblait que j'allais mieux, mais le lendemain mon état empirait. Cela dura jusqu'à ce que des amis viennent me chercher pour m'emmener chez eux à la campagne. Je ne subissais plus tous les bruits de la ville, et fus soigné avec tout l'amour possible. J'y restais 6 semaines, mais sans aucun résultat. J'étais sous calmant la plupart du temps, de jour comme de nuit. Après 6 semaines, je fus ramené chez moi, mais mon état était pire que jamais. Le lendemain de mon retour, mon merveilleux Seigneur m'envoya l'une de ses fidèles servantes, Madame Marie Long. Elle me donna son témoignage, et pria pour moi. Elle était pleine d'amour et de gentillesse. Un jour, elle eut à cœur de recoudre l'un des bleus de travail de mon fils, et, un autre jour, elle aida les enfants à préparer le repas. Je dis cela à la gloire de Dieu, pour montrer ce que l'on peut faire quand on laisse le Saint-Esprit pleinement nous conduire. Un lundi de novembre, elle vint me chercher en voiture, avec 2 autres chers amis chrétiens, pour me conduire à une réunion du frère Bozo Hort. Ce dernier pria pour moi en m'oignant d'huile, et je fus instantanément guéri. Que Dieu soit béni. Jésus le fit en réponse à la prière. Il fallut 3 personnes pour m'aider à entrer dans la salle, mais j'en sortis sans l'aide de personne, en m'appuyant seulement sur le bras de Jésus où le Seigneur était, et il est toujours, précieux à mon cœur. Le matin qui précédait ma guérison, mon mari et ma famille se demandaient si j'allais vivre jusqu'au soir. Ce même soir, je préparais le repas familial pratiquement toute seule. Voyant ma guérison, mon mari et mes 3 filles se sont données au Seigneur. Aujourd'hui, ils sont solidement établis sur le roc, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le lendemain, je pris un tramway et me rendis à la réunion toute seule. Jésus était avec moi, comme il est encore aujourd'hui avec moi. Le surlendemain, je nettoyai complètement 3 pièces de ma maison, louant et bénissant le Seigneur tout le temps. Depuis lors, j'ai été attaqué à certains moments, mais à chaque fois le Seigneur m'a envoyé ma sœur Long, qui a prié pour moi. Dieu soit béni, À chaque fois j'ai été guéri. J'ai vraiment beaucoup de sujets de reconnaissance envers le Seigneur. Je connaissais ma sœur long avant sa guérison, et à quel point elle souffrait. Depuis qu'elle est guérie, je loue le Seigneur pour la manière dont il l'utilise pour sa gloire. Qu'il veuille bien bénir mon témoignage. Votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ, Madame Sadie Robinson. Guérie d'une maladie nerveuse, je souffrais d'une maladie nerveuse depuis 5 ans. Les médecins me disaient que cela provenait de problèmes dans ma moelle épinière. Je ne pouvais pas contrôler les muscles de ma tête. Mon visage et ma bouche étaient continuellement déformés par des tics nerveux. Mes yeux également. Ma tête se balançait tout le temps. J'ai consulté toutes sortes de spécialistes. Aucun ne fut capable de m'aider. Ils ne pouvaient pas déterminer ce qui causait mon problème. Je finis par entendre parler des réunions du frère Bozo Hort, et je m'y rendis. Lorsqu'il nous invita à nous approcher, je le fis. Il pria pour moi en moignant d'huile. Tous les mouvements nerveux s'arrêtèrent aussitôt, et ne sont plus jamais revenus. Après ma guérison, qui remonte maintenant à plusieurs mois, ma mère, ma sœur, mon beau-frère et mon beau-père se sont convertis. J'ai moi-même repris près de 10 kilos. Madame Azeldé. Bonne Monsieur C. Bigler raconte la guérison de sa mère. Je suis heureux de pouvoir donner le témoignage de ma mère, et le mien propre. En les donnant, j'espère qu'ils serviront à donner la paix et la joie à de pauvres pécheurs fatigués, ou la guérison à de pauvres malades souffrants. Tout cela pour la gloire de Dieu. Ma mère avait des problèmes de varices depuis plus de 30 ans, compliqués d'une très forte tension artérielle. Ses membres inférieurs étaient très enflés. Son état s'était aggravé depuis 10 ans. Depuis 10 semaines, elle ne pouvait plus marcher. Il y a environ 5 mois, elle apprit que l'une de ses voisines, Madame Robinson, avait été guérie par la foi en Dieu. Son cas était tellement merveilleux que nous nous sommes renseignés, et nous apprîmes qu'une certaine Madame Long était venue la chercher pour l'amener dans une église. Nous avons trouvé où Madame Long habitait, et nous lui avons demandé de venir voir notre mère. Madame Robinson vint avec Madame Long. Elles prièrent avec notre mère, et lui expliquèrent quelles étaient les merveilleuses bénédictions réservées à ceux qui croient. Plus tard, Madame Long revint avec 3 membres de son église. Ils ont prié pour ma mère en l'oignant d'huile. 3 jours plus tard, elle pouvait remettre ses chaussures et marcher à nouveau, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 10 longues semaines. Pendant ce temps, ma mère avait lu sa Bible. Dieu s'est révélé à elle dans la prière. Elle a été grandement bénie. Toutes les douleurs qu'elle avait dans les jambes disparurent, les varices commencèrent à se dessécher, et l'enflure a diminué. Sa santé s'améliora, et sa forte tension artérielle commença à disparaître, chose que les docteurs avaient déclarée impossible, si ce n'est par certains traitements électriques spéciaux. Ils lui avaient conseillé depuis des mois de se faire hospitaliser. Aujourd'hui, ma mère est en meilleure santé qu'elle ne l'a jamais été depuis des années. Aucun de ses anciens problèmes de santé n'est revenu. Gloire à Dieu pour ses bénédictions par son salut et sa guérison. Elle a trouvé consolation et bonheur dans les œuvres de Dieu et ses promesses. Madame Long a continué à nous appeler au téléphone et à nous visiter. Elle n'était jamais pressée et a toujours prié avant de partir. Lorsque je vis les merveilleuses œuvres de Dieu dans la vie de ma mère, je commençai moi aussi à sonder les Écritures. Je découvris que les promesses de Dieu étaient aussi pour moi si je croyais. Un jour que Madame Long nous visitait, elle nous dit que c'était la dernière réunion du frère Bozo Hort. Elle me persuada de m'y rendre, ce que je fis, en compagnon de Madame Robinson et de son mari, qui avait aussi été sauvé et guéri. C'est un jour que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Après avoir écouté la prédication de l'évangéliste, je l'entendis demander à tous ceux qui voulaient recevoir le salut, la guérison ou la prière, de s'avancer devant l'estrade. Pendant toute la prédication, j'avais prié en silence Dieu pour qu'il me conduise. Accompagné du frère Robinson, je m'approchai, et je reçus le salut par le sang de Jésus. Je souffrais de troubles nerveux et de mauvaise santé depuis 15 ans. J'avais subi trois très graves opérations, et je souffrais tous les jours. Après que l'un des collaborateurs du frère Bozo Hort eut prié pour moi en moignant d'huile, je revins chez moi et, gloire à Dieu, par ses meurtrissures, je fus guéri depuis cette date, j'ai repris un régime alimentaire normal, je n'ai plus eu aucun problème d'estomac, et mes nerfs ont été merveilleusement guéris. Ma mère et moi, nous sommes tellement heureux plus nous allons, et plus la vie nous semble douce. Il nous semble que nous recevons tous deux de Dieu toutes les bénédictions qu'il tient en réserve pour ceux qui croient. Je veux aussi mentionner ceci au cours d'une seule semaine, j'ai demandé à Dieu cinq choses que l'on aurait pu croire impossibles à obtenir, et j'ai été exaucé gloire à son saint nom. Veuillez reproduire ce témoignage, pour que certains puissent le lire, être bénis par nos expériences, et recevoir la paix et le bonheur comme nous. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus seront sauvés. C'est sa promesse. Gloire à son nom béni, il tient toujours ses promesses. Notre Bible est une grande source de bonheur à présent. Mon seul espoir est que Dieu puisse m'utiliser pour l'avancement de son œuvre, de la manière qu'il jugera bonne. Nous rendons grâce à Dieu et nous collaborerons toujours avec lui, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher pour être avec lui là-haut. Monsieur Carson A. Bigley, Pittsburgh. La foi toute simple vaut mieux que des oculistes réputés. J'étais membre d'une église depuis 5 ans. Je savais que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il avait versé son sang sur la croix. Mais je n'avais jamais entendu dire que c'était pour moi. Je ne savais pas que j'étais perdu, que je pouvais être sauvé et savoir que je l'étais, au lieu d'attendre de mourir pour savoir si je serais sauvé ou non. Cependant, j'étais fier de mon église, et je n'aurais jamais eu l'idée d'aller à une réunion organisée par une autre dénomination. Mais j'avais besoin de guérison. J'étais très hypermétrope depuis toujours, et j'avais un œil qui louchait depuis 15 ans. Je portais de très grosses lunettes depuis plus de 11 ans, et je devais consulter un oculiste pour changer mes verres tous les 6 mois environ. Si j'étais privé de mes lunettes pendant un court moment, je souffrais de forts maux de tête, et ma vue était alors tellement mauvaise que je ne pouvais discerner ni les visages ni les meubles. Tout était trouble et flou. Un ami de Pittsburgh m'envoya un journal local, qui donnait des témoignages, et qui annonçait les prochaines réunions de Bozo Hort à 2-3. Je m'y rendis en janvier dernier, et je reçus le salut directement à ma place. Je ne rappelle plus sur quoi il a prêché ce soir-là, mais je sais que je me sentais bien plus légère en sortant que lorsque j'étais entrée. Au cours de cette semaine, le Seigneur commença à me parler, et voici, toutes choses anciennes passèrent, et toutes choses devinrent nouvelles. Le lendemain, je me levai pour demander la guérison. Le frère Bozo Hort pria pour moi, et je fus instantanément guéri. Il me présenta une petite carte, et je pus la lire parfaitement. J'étais abasourdi. Pendant 2 heures, mes yeux restèrent à leur place normale, et ma vision fut parfaite. Puis tout devint comme auparavant, et même pire qu'auparavant, pendant le reste de cette journée et tout le lendemain. Certains membres de ma famille tentèrent de me pousser à remettre mes lunettes, en me disant que j'allais devenir aveugle. Dieu merci, je refusai et continuai à me confier au Seigneur. Le lendemain, mes yeux reprirent leur position normale et ma vue se fortifia de plus en plus. Aujourd'hui, elle est tout à fait normale. J'oubliais de dire que pendant tout le temps où le Seigneur m'avait mise à l'épreuve, je ne pouvais lire que ma Bible, et rien d'autre. 2 semaines après cette merveilleuse guérison, le Seigneur me baptisa et me remplit du Saint-Esprit. Et je le suis toujours. Je loue le Seigneur qu'il ait inclus la guérison dans l'Évangile, et d'avoir envoyé les frères Bozo Hort à 2-3 pour nous en parler. Depuis que le Seigneur m'a guéri, mes maux de tête ont aussi complètement disparu. Personne n'est plus réel pour moi que le Seigneur, et il m'est plus proche chaque jour. Je n'ai pas de mots pour raconter tout ce qu'il a fait pour moi. Presque chaque fois que je donne mon témoignage, je me rends compte qu'il a fait du bien à quelqu'un, physiquement ou spirituellement. Je loue le Seigneur de ce qu'il prend soin de nous, pour tout ce qui nous concerne. Lorsque le Seigneur me demanda de me rendre avec une sœur en Christ dans la ville de Saint-Paul, nous n'avions que 200. Après avoir dit au Seigneur que nous nous y rendrions, il m'a donné l'argent du billet. Je n'avais jamais entendu dire que l'on pouvait faire confiance à Dieu pour ses finances, avant que le frère Bozo Hort nous parle de ses expériences. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Un matin, il nous restait 1300. Après avoir acheté de quoi prendre un léger petit déjeuner, nous n'avions plus qu'un seul cent. Nous nous sommes écriés gloire à Dieu à cet instant précis, un porteur spécial vint nous livrer une lettre qui contenait 2 $. 3 jours plus tard, au moment où nous devions payer notre loyer, le Seigneur nous a envoyé 14 $. C'est ainsi qu'il pourvoit de retour chez moi, il me restait 5 $. J'ai demandé au Seigneur de me donner l'argent pour mon billet. Et, avant minuit, il m'avait donné 1 $ et 85 cents de plus. Depuis ce jour, je m'appuie sur ses promesses en toutes choses, et je n'ai jamais été déçu. Utilisez ce témoignage comme vous le jugerez bon, en suivant la direction du Saint-Esprit, et entièrement pour la gloire de Dieu. Madame Edith Watlow, 2-3, Michigan. Guérie d'un cancer il y a environ 4 ans, un cancer m'est apparu sur le visage. Tout d'abord, ce n'était apparemment qu'un tout petit bouton sur le nez. Je me grattais tout le temps, jusqu'à ce que le bouton s'infecte, et il fut bientôt évident que c'était un cancer. Je souffrais beaucoup, et, dans le courant de la seconde année, la douleur devint intolérable. Je devais tenir constamment mon visage couvert, à la fois pour mon apparence, et parce que je devais appliquer en permanence des pansements avec de l'éther et d'autres anesthésiques, pour calmer un peu la douleur. J'ai dépensé une fortune en médicaments au cours de la dernière année de ma maladie. Mais c'était le seul moyen d'alléger mes souffrances. Lorsque j'enlevais les pansements, la douleur était si intense qu'elle m'aveuglait, et je ne pouvais même plus distinguer ma main devant mes yeux. J'allais de médecin en médecin, dans l'Ohio, dans l'Indiana, dans l'État de New York, et dans le New Jersey, chaque fois que j'entendais parler d'un bon spécialiste qui aurait pu me soulager. Je suis sûr d'avoir consulté plus de 50 médecins. Mais tous me dirent que mon cas était désespéré et qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Mais, gloire à Dieu, dans le courant du mois de septembre, j'entendis parler des réunions que le frère Bozo Hort tenait dans ma propre ville, à Lima, dans l'Ohio. Je m'y rendis dans l'unique désir d'être guéri. Je n'avais jamais entendu prêcher l'évangile de cette manière, et je m'approchai immédiatement. Quand on me demanda de prier, je ne savais pas comment, et il a fallu que je répète la prière. Mais, en la répétant, la foi vint dans mon cœur, et je commençai à être très heureuse. Ils m'imposèrent les mains pour ma guérison, et je pus sentir à ce moment la puissance de Dieu traverser tout mon corps. Il me sembla que quelqu'un enlevait tout doucement comme un masque de caoutchouc qui aurait recouvert mon visage. Lorsque ce masque fut remonté jusqu'au sommet de ma tête, je vis une brillante lumière, et j'eus une vision de Jésus, qui se tenait juste devant moi. Puis je poussai un grand cri, ce que je n'aurais pas pu faire auparavant. Dès le début de l'imposition des mains, la douleur cessa, et je sus que j'étais guéri. Certains m'ont dit que je m'étais écrié « Je suis sauvé et guéri » et que j'avais arraché le pansement qui me couvrait le visage. J'étais tellement heureuse que je ne me rendais plus compte de ce que je faisais. Je n'arrêtais pas de crier de joie. Je suis rentré chez moi en criant, j'ai passé presque toute la nuit à crier, et j'ai continué à crier quand je me suis levé le lendemain. Ma fille avait préparé le petit déjeuner. Elle me regarda et s'exclama « Oh, maman, il y avait un grand miroir dans la salle à manger, et je m'y regardais. » Je vis que ma lèvre supérieure, qui avait été en partie rongée par le cancer, avait été reconstituée. Elle avait été rongée jusqu'à la racine des dents. Pendant la nuit, une chair nouvelle avait poussé, et avait été recouverte d'une nouvelle peau, aussi ferme et belle que vous pouvez le voir maintenant. Il n'y avait plus aucune trace du cancer, si ce n'est quelques cicatrices. Il restait encore 2 petites croûtes que j'avais sur le visage auparavant, mais plus tard elles disparurent. Partout où la peau avait été rongée, elle avait été remplacée par une nouvelle peau au cours de la nuit. J'avais le pouce droit paralysé depuis 4 ans. Mon coup de pied avait aussi été fracturé. Tous deux furent guéris en même temps que le cancer. Ils ne m'ont plus jamais fait mal depuis ce moment. Quand je vis que ma lèvre avait repoussé, je criai tellement fort que ma maison fut bientôt remplie de voisins, auxquels je racontai ce que Dieu m'avait fait. Mes enfants prirent ma guérison pour une indication que le Seigneur allait bientôt m'enlever au ciel. Quand je restais trop longtemps chez les voisins, ils venaient voir si j'étais toujours sur terre. Depuis 2 ans, je ne pouvais plus manger que de la soupe ou boire du lait. Il m'était impossible d'ouvrir suffisamment la bouche pour y introduire de la nourriture, et il fallait faire glisser le liquide dans ma bouche avec une petite cuillère. Je fus guéri un vendredi soir. Le samedi matin, je pris une fourchette et un couteau, et je commençai à manger comme je le faisais avant de tomber malade. Lorsque les frères Bozo Hort vinrent me voir, ce même jour, je pris une cuillère à soupe, ouvris toute grande ma bouche, et leur montrai comment je pouvais manger à présent. Lorsqu'ils vinrent, j'étais sorti voir des voisins pour leur montrer mon visage, mais ils attendirent chez moi que je revienne, et ils se réjouirent avec moi de ma guérison. Le dimanche suivant, j'allais me faire baptiser. La veille, j'avais entendu une voix intérieure me dire « Va dans l'eau ». Le frère Bozo Hort m'expliqua ce que cela signifiait. J'obéis et je fus baptisé. Le lundi suivant, ma fille avait amené un grand seau de pommes. Je me suis assise pour les pelets, et je chantais « Je sais que le Seigneur a posé ses mains sur moi, c'est lui qui guérit les malades et ressuscite les morts ». J'eus le temps de peler toutes les pommes avant de me rendre compte que mon pouce était guéri. C'est à ce moment-là que je réalisais qu'il fonctionnait parfaitement normalement. Dès que la nouvelle de ma guérison se fut répandue, beaucoup de gens m'appelèrent pour me demander une confirmation. Je leur donnai l'adresse de mes voisins, qui avaient tous vu dans quel état j'étais. Je reçus des lettres du monde entier. En un seul jour j'en reçus 19. Il y a 3 mois, un docteur qui m'avait soigné vint me voir chez moi. Il me demanda comment j'allais. Je lui dis que j'allais bien, et que j'en remerciais le Seigneur. Il voulut connaître le nom de mon docteur. Je lui répondis: c'est le docteur Jésus. Il me dit: depuis combien de temps est-il installé ici? Je lui répondis: depuis aussi longtemps que moi. Il ne s'était pas rendu compte que je lui parlais du Seigneur Jésus-Christ. Quand il le comprit, il partit d'un grand éclat de rire et se réjouit avec moi. Le lundi, après avoir pelé les pommes, j'allais prier pour une femme qui avait un cancer. Elle se rendit à une réunion le lendemain ou le surlendemain, et elle fut guérie. En sortant de sa maison, je passai devant l'usine de gaz en louant le Seigneur. Les ouvriers qui étaient là me demandèrent ce qui se passait. L'un d'eux devait être un chrétien, car lorsque je leur racontai ce qui m'était arrivé, il se mit à crier. Depuis ma guérison, voici maintenant 1 année, je n'ai plus eu aucun symptôme de cancer ni de douleur dans ma main ou dans mon pied. Mais 1 mois environ avant de venir à Toledo, un gros paquet de charbon me tomba sur le pied. J'ai été sérieusement blessé. Quelques jours après, un morceau d'os long de plus d'1 centimètre sortit de la blessure. Après mon arrivée à Toledo, je demandai que l'on prie pour moi, et mon pied fut guéri. Il ne m'a plus jamais fait mal. Depuis que j'ai reçu le salut, j'ai été souvent appelé pour prier pour les malades. Une fois, c'était pour un petit garçon, Billy John, qui était alité depuis plusieurs mois. Il était paralysé et avait de vilaines plaies sur le visage et sur le dos. J'ai prié pour lui en disant à ses parents qu'il marcherait dans 9 jours. Je leur ai dit cela parce qu'il me semblait qu'une voix m'avait annoncé cela. 9 jours après, il est venu me voir chez moi, à 200 mètres de là. L'hiver dernier, je fus 1 jour à court de charbon. Je savais que le Seigneur avait promis de prendre soin de moi, aussi j'ai prié à ce sujet. En descendant les escaliers, j'ai trouvé du charbon qui remplissait une grande lessiveuse d'une 40aine de litres. Je n'ai jamais su qui me l'avait donné. Lorsque je prie pour quelque chose dont j'ai besoin, Je suis certaine de l'obtenir, exactement comme si une voisine amicale me le donnait. Je ne l'obtiens pas toujours immédiatement, mais cela finit toujours par venir. Juste avant de faire cette visite à Toledo, j'ai dit au Seigneur j'aimerais retourner aux réunions des Bozo Hort encore une fois. Le Seigneur m'a immédiatement procuré l'argent nécessaire pour aller à Toledo. Je savais que j'allais dans une ville inconnue, aussi je dis adieu Seigneur, je sais que tu vas prendre soin de moi. Sans que je fasse aucun effort, il a pourvu un très bel endroit pour que j'y demeure jusqu'à mon départ. À l'époque où j'avais le cancer, je dus vendre mes vêtements pour avoir l'argent nécessaire par les anesthésiques et tous les autres médicaments. Aussi, quand j'ai été guéri, j'avais très peu de moyens. Mais Dieu a toujours pourvu. Je n'ai jamais manqué de rien. Dernièrement, en avril, nous avons contracté la variole. Les autorités nous ont mis en quarantaine, et ne se sont pas souciés de nous approvisionner. J'ai prié, et, un jour, un homme s'est présenté à ma porte avec un grand panier rempli de victuailles. Ma fille et moi nous avions une sévère attaque de cette maladie, mais nous n'avons été soignés par aucun médecin, si ce n'est par Jésus. Nous avons été guéris sans qu'il nous reste une seule cicatrice. Après presque 3 années de souffrance, être instantanément délivré, c'est presque trop beau pour être vrai. Madame Alice Baker, Lima, Ohio. Mademoiselle Lida Clark confirme le témoignage de Madame Baker. J'étais présente lorsque Madame Baker a été guérie de son cancer. Tout de suite après l'onction d'huile et la prière, elle a dit à quelqu'un « Enlève-moi ce pansement ». L'autre personne le lui a détaché, et Madame Baker l'a jeté au loin. On aurait dit qu'elle venait tout juste d'être remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria, en faisant un bond en l'air « Je suis sauvée et guérie ». Personne ne pouvait se douter qu'elle était guérie, ni moi non plus. Son visage était horrible à voir. C'était une masse de sang, de pus et de plaies. Mais elle dit plus tard que la douleur était partie, et qu'elle était certaine dans son cœur qu'elle était guérie. L'odeur dégagée par le cancer était si nauséabonde que la personne qui lui avait fait remplir sa carte, pour qu'elle se joigne à la file d'attente des malades, en a été malade toute la soirée et tout le lendemain, mais, le lendemain soir, il n'y avait plus aucune odeur. J'étais assise à côté d'elle et je peux le certifier. Le cancer, les trous dans ses lèvres, les plaies, tout avait disparu. Il était évident qu'elle était guérie. Après sa guérison, j'ai rencontré le docteur qui l'avait suivi pendant sa maladie. Ayant appris qu'elle avait été guérie, il me demanda de lui raconter ce que j'avais vu. Je lui ai dit que je l'avais vu se rendre à la réunion avec un pansement sur le visage, que j'étais présente lorsqu'on a prié pour elle, et que je l'ai entendu s'écrier qu'elle était guérie, lorsqu'elle a enlevé le pansement. Puis je l'ai vu sortir dans la rue sans son pansement. Il me dit que c'était impossible, parce qu'elle ne pouvait pas marcher sans son pansement sur le visage. Sinon, la douleur était si intense qu'elle en était aveuglée, et qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Il me dit « Ma fille, vous avez été hypnotisée, c'est impossible. » Je l'ai revue après qu'il l'ait lui-même visitée, et il a avoué qu'il lui était certainement arrivé quelque chose de merveilleux. Il a reconnu le miracle. Mademoiselle Lida Clark, Lima, Ohio. Guérison d'un cancer monstrueux. Voici ce que raconte Madame R. Je relamant, de Chicago. J'ai visité Madame Trina Odegar, à Woodstock, dans l'Illinois, et j'ai été très surprise de la trouver plus morte que vive. Nous savions qu'elle souffrait d'ulcères d'estomac depuis 25 ans au moins, et nous pensions qu'elle avait un cancer. Ses repas consistaient en une demi-tranche de pain. Quand je la poussais à manger davantage, elle me disait que si elle le faisait, la douleur la tuerait. Elle pouvait à peine se déplacer dans sa chambre. Après mon départ, elle consulta 3 médecins de Woodstock. On lui fit passer des radios, et elle apprit qu'elle avait un cancer très avancé, trop avancé même pour qu'une opération puisse être envisagée. Les médecins pensaient qu'elle ne s'en sortirait pas. Ils lui donnaient environ 2 semaines à vivre. Elle décida de consulter un spécialiste, ici, à Chicago, qui lui dit la même chose. Ce fut pendant sa visite, en juin, qu'elle entendit parler de la campagne sous tente que les Bozo-Hort avaient organisée à Chicago. On la conduisit aussitôt à une réunion, et elle fut instantanément guérie lorsqu'on pria pour elle. Elle dit que la puissance de Dieu avait traversé tout son corps, de la tête aux pieds, pendant la prière. Ses douleurs et ses souffrances disparurent immédiatement. Le cancer fut éliminé par la puissance de Dieu. Elle avait tellement faim, avant même de quitter la tente, qu'elle put à peine tenir jusqu'à ce qu'on lui donne quelque chose à manger. Elle nous visita le lendemain, et prit le plus copieux repas que je lui ai vu manger depuis de nombreuses années. Elle n'a pas semblé éprouver la moindre gêne. Page 190. Sa guérison s'est passée il y a 6 mois. Quand je l'ai appelée l'autre soir, elle allait très bien. Elle avait repris du poids et avait tout le temps faim. Les gens de Woodstock étaient réellement étonnés, car ils ne s'attendaient absolument pas à la voir revenir vivante, après son voyage à Chicago. C'est grâce à sa merveilleuse guérison que ma mère et moi nous nous sommes convertis. Nous voulions servir un Dieu si plein d'amour, et nous lui avons donné notre cœur au moment même où nous avons assisté à ce miracle. Depuis que je suis convertie, je suis chaque jour plus heureuse. Mais nous avons reçu bien d'autres bénédictions encore. J'étais malade et traitée par la médecine depuis près de 4 ans. J'étais tellement nerveuse que je faisais parfois des crises d'hystérie. J'étais terriblement anémiée, et j'avais des problèmes internes qui avaient nécessité une opération 2 années et demie auparavant. Après cela, mon état empira. Il m'était impossible de retrouver mes forces et de prendre du poids, quoi que je fasse. Je prenais des toniques pour les nerfs, pour le sang, et on me faisait des injections de sérum. Rien ne semblait me faire du bien. Je devenais de plus en plus dégoûté de la vie, et je décidai d'arrêter tous ces soins. Je bénis Dieu, parce qu'il m'a dirigé vers ces réunions sous tente organisées par le frère Bozo-Hort. Je savais qu'il voulait que j'y aille, pour qu'il puisse me sauver et me guérir. Je n'étais pas encore sauvé, et j'ai été guéri dès que je me suis donné à Jésus. Je reprends du poids, je suis plus forte que jamais, et je ne suis plus nerveuse. Je remercie également le Seigneur pour la parfaite paix et la parfaite joie que j'ai dans mon cœur. Ma vie avec Christ n'est que joie et bonheur. Ma mère a aussi reçu une merveilleuse guérison. Un médecin m'avait dit qu'il fallait que je la fasse soigner rapidement, sinon je ne la verrais plus longtemps. Il dit qu'elle devait être opérée, parce qu'elle souffrait de la vésicule et de l'appendice. Ses douleurs étaient si violentes qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle avait subi une opération 7 ans auparavant, et n'avait plus jamais été bien depuis ce moment. Elle avait eu aussi une hernie abdominale en revenant de l'hôpital. Aussi craignait-elle beaucoup la perspective d'une nouvelle opération. Elle s'avança pour la prière, et elle sentit la puissance de Dieu la traverser. Elle poussa un cri de joie. Ses douleurs cessèrent complètement, et sa hernie a été aussi guérie. Gloire à Dieu, le témoignage de Madame Kelly que j'ai souffert pendant des années d'un cancer à la jambe. Je souffrais tellement que je m'en arrachais les cheveux, tellement la douleur était intolérable. Les médecins m'ont opéré, mais je n'ai eu aucun soulagement. Pendant 2 années, après mon opération, il me fut impossible de lacer mes chaussures, à cause de l'enflure. Je ne pouvais pas bien marcher, ni m'agenouiller, ni faire mon travail, ni sortir. On diagnostiqua mon cancer comme étant un sarcome causé par un mélanome. Cela faisait 4 mois que j'étais constamment alité. Je reçus la prière et l'onction d'huile. Presque instantanément, la douleur cessa, et l'enflure disparut rapidement. À présent, le cancer est complètement parti. Il ne reste que quelques cicatrices, qui montrent encore l'endroit où vivait ce monstre noir à la tête hideuse. Ma chair est devenue propre et pure, et ma santé est parfaite. Après ma guérison, je suis allé voir le médecin. Il se mit à rire, et me dit: « Eh bien, Madame Kilik, c'est vrai que je suis content de voir dans quel état vous êtes, mais je vous parie $10 que le cancer sera revenu dans 6 mois. Cela fait à présent presque 2 ans que je suis guéri, Et je suis toujours en bonne santé, Madame Killick, Toronto, Canada. La guérison de Mademoiselle Nix. J'ai été guéri, par la puissance de Dieu, d'un cancer, du diabète, d'une hypertrophie du cœur, d'une scoliose, d'une paralysie presque complète des membres inférieurs, d'une dépression nerveuse profonde, et d'une cécité presque totale. Je souffrais du cancer depuis 1 an et demi, et des autres maladies depuis 7 ans. Je ne pouvais marcher qu'avec des béquilles, et je ne sortais qu'en chaise roulante. Le médecin qui me soignait m'avait dit, il y a quelques semaines, qu'il n'avait presque jamais vu quelqu'un souffrir autant que moi. Vers la mi-octobre, je me sentis très mal, et je fis appeler le docteur. Il me dit qu'il me donnait à peu près 10 jours à vivre, pas plus. 3 jours après, le petit homme qui m'apportait d'habitude le journal vint frapper à ma porte pour prendre de mes nouvelles. Il voulut me voir. On le lui permit, et on lui dit que je ne le reconnaîtrais probablement pas. Je le reconnus peu avant qu'il parte, mais je fus incapable de parler. Il me dit « Madame Killick a été guérie d'un terrible cancer. Elle peut venir vous voir. Aimeriez-vous qu'elle vienne ?» Je fis « Oui » de la tête. Elle vint me voir et me dit que Dieu voulait me guérir. Elle me lut la Bible et pria, mais je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit. Mais je me souviens du cantique qu'elle a chanté. Le voici si toute la terre m'appartenait, Seigneur, ce serait un présent bien trop petit pour toi. Ton amour merveilleux, don de ton divin cœur, exige mon âme, ma vie, et tout de moi. En partant, elle me dit qu'elle repasserait me voir le soir même. Je me mis à réfléchir dans mon lit, et je dis à l'ami qui me soignait si Dieu a guéri cette femme, il me guérira aussi. Je demandai au Seigneur ce qu'il voulait que je fasse, et je l'entendis clairement me dire « Mets tes chaussettes et tes chaussures ». Mon ami me dit « Ma chérie, tu ne peux pas te lever », mais elle m'apporta mes chaussettes et mes chaussures. Elle me leva le pied pour le chausser. Je me sentais comme auparavant, mais à l'instant même où la chaussette toucha mon pied, je sentis la puissance de Dieu toucher mon corps. Elle entra par mes pieds, au moment où j'obéissais à l'ordre du Seigneur, et elle s'étendit à tout mon corps. Je me mis debout. Je ne m'étais pourtant pas tenu debout toute seule depuis 4 ans. Puis je demandai mes vêtements, et je m'habillai moi-même. Je marchai dans la chambre et allai me coiffer. Mon ami me demanda « Que vas-tu faire à présent ?» Je lui répondis que je voulais l'aider à faire le dîner. Elle me demanda ce que je voulais manger, et je lui dis que je mangerais la même chose qu'elle. Jusque-là, je ne pouvais absorber que des œufs et du jus d'orange. Je fis le même repas qu'elle. Je me couchai à 9 h du soir et dormis jusqu'à 6 h du matin. Je ne pouvais pas rester au lit, mais je me levai, pris mon petit déjeuner, fis la vaisselle, et demandai au Seigneur ce qu'il aimerait que je fasse pour le glorifier. Je l'entendis me dire « Sire le plancher, ma chère, répondit, tu ne peux pas faire cela, tu ne t'es pas mise à genoux depuis des années, mais je cirai le plancher d'un bout à l'autre. » Et Madame Killick vit le travail que j'avais fait quand elle revint me voir dans l'après-midi. Elle me dit « Je vais donner mon témoignage dans la petite salle de l'armée du salut. Voulez-vous donner aussi le vôtre ?» Elle me proposa de m'y rendre en voiture, mais je refusai, et nous y sommes allés à pied. À mon arrivée, la puissance de Dieu me submergea tellement qu'il me fut impossible de parler, et je ne restai que peu de temps. Depuis ce moment, Dieu m'a fortifié et a guidé mes pas. L'été dernier, j'ai dû m'occuper de l'une des plus grandes maisons de vacances de l'église anglicane, et je devais souvent travailler de 6 h du matin jusqu'à 2 ou 3 h de la nuit suivante. J'ai toujours été en parfaite santé, à part une attaque de pneumonie dont le Seigneur m'a guéri, sans l'aide d'aucun médicament ni d'aucun médecin. Mon témoignage a été un moyen de bénédiction pour beaucoup. Le Seigneur m'a conduite à ouvrir par la foi une petite salle d'évangélisation, et certaines des jeunes filles qui y sont venues ont reçu le salut et la guérison. Vous étonnez-vous après cela que j'aime Dieu? Il m'a béni spirituellement et physiquement, et je suis certaine d'être la plus heureuse de la terre, mais il y a plus précieux encore que ma guérison. Le Seigneur m'a utilisé puissamment pour raconter aux autres ce qu'il a fait pour moi, et beaucoup de malades ont été merveilleusement guéris. Mademoiselle Nix, Toronto, Canada. Une guérison miraculeuse entraîne la conversion de 20 membres de la même famille. Je souffrais de douleurs d'estomac depuis près de 30 ans. Il y a 20 ans, j'ai subi ma première opération d'une tumeur. Mon état a empiré au point que je ne pouvais rien garder dans mon estomac. Il n'était pas question de manger des fruits. Trois autres opérations ont suivi la première. 14 médecins différents se sont occupés de moi. L'état de mon estomac ne me permettait même plus d'absorber des médicaments. J'ai eu aussi une descente d'estomac. En juin dernier, on me découvrit un goitre interne. Mon état empirait. Finalement, on me découvrit un cancer. Je me rendis à une réunion du frère Bozo Horte. Je reçus l'onction d'huile et la prière. Dieu toucha mon corps avec une telle compassion que je poussai un cri de joie. Gloire à son nom, jamais le Seigneur ne m'avait été aussi cher. Je n'avais pas compris qu'il m'aimait autant. Les choses sont différentes à présent. J'ai compris que c'était lui qui attendait que je vienne à lui pour être guéri. Je suis guéri de toutes mes maladies, que son nom soit loué, mais il y a mieux, j'ai invité mon mari, ma mère, ma fille, mes fils, mes frères et sœurs, ma belle-sœur, mes nièces, et un neveu. 20 personnes en tout, qui se sont toutes converties. Dieu a fait un beau coup de filet. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Madame A. Bandé, Eston, Pennsylvanie. Guérie de la maladie de Bright et de diverses autres maladies en entendant le frère Bozo Horte prêcher le plein évangile, en Floride, en janvier dernier, j'ai reçu d'incalculables bénédictions spirituelles et physiques. Cela a été une telle révélation pour moi, d'apprendre que Dieu voulait si ardemment me guérir, que je prie que le Seigneur m'utilise pour le dire aux autres. Après avoir été soigné pendant 5 ans pour une maladie de Bright, accompagnée d'une très forte tension artérielle, d'une infection des sinus, et de plusieurs autres maladies moins graves, on me dit que je n'avais plus que 3 mois à vivre. J'avais consulté de nombreux médecins très réputés aux États-Unis et au Canada, des chiropracteurs et des ostéopathes. Il me semblait que j'avais fait tout ce qu'il était humainement possible de faire. Mais, béni soit Dieu, il m'a merveilleusement guéri dans mon corps, et il me semble que je suis une nouvelle personne. Les crises que j'avais d'habitude 3 fois par mois ont disparu. Ma tension artérielle a baissé, et les docteurs m'ont dit que mon cœur était normal. J'ai pu aussi me débarrasser de mes lunettes, que je devais porter depuis des années. L. B. Cornwall, Ontario, Canada. Une infirmière guérie de varices. Je souffrais depuis 4 ans de varices. Il m'était impossible de rester debout, même quelques minutes, sans m'appuyer constamment sur une jambe après l'autre. À 3 reprises différentes, j'ai dû rester alité pendant 4 mois. Mes jambes étaient tellement enflées et congestionnées que je ne pouvais supporter le contact d'aucun linge, même en hiver. Je dormais toujours avec la fenêtre ouverte et les jambes exposées à l'air, quelle que soit la température de la pièce. Il y a quelques jours, je suis venu à une réunion. Après avoir écouté l'enseignement sur la guérison divine, on pria pour moi en moignant d'huile. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur, et je peux travailler toute la journée sans aucune gêne. J'avais sur les jambes des sortes de boules de la taille d'un œuf de poule, mais elles ont complètement disparu. Gloire à Dieu, je veux aussi remercier le Seigneur pour la guérison de ma petite fille âgée de 10 ans. Elle souffrait de bronchite chronique. Elle était sous traitement médical constant, ce qui ne l'empêchait pas de tousser jour et nuit. Depuis qu'on a prié pour elle en l'oignant d'huile, elle est complètement délivrée. Je loue le nom béni du Seigneur. Je serai heureuse que ce témoignage soit publié pour la gloire de Dieu, et pour que d'autres soient bénis. Beth Evan, Johnson City, New York. Le Seigneur était impatient de bénir ses enfants il y a quelques années, alors que je déchargeais des tombereaux de charbon, en décembre, je me suis fait un sérieux tour de rein. J'ai voulu rentrer chez moi, mais il a fallu qu'on vienne me chercher pour me porter à la maison, car je ne pouvais pas marcher à cause de la douleur intense. Je n'ai pas pu marcher pendant 3 mois, Et je n'ai pas pu dormir sur un lit pendant 3 ans. Je devais dormir à même le sol, car je ne pouvais pas supporter d'être allongé sur quelque chose qui n'était pas parfaitement plat. Tout mon côté gauche était paralysé, et j'étais tellement engourdi que je pouvais à peine marcher. Quand j'appris que les frères Bozo-Hort venaient par ici, et que j'entendis parler de leur grande foi dans la guérison divine, je sentis que le moment de guérir était venu pour moi. Je me procurai une carte pour m'inscrire dans la file d'attente. Mais lorsque je me fus approché, on me dit que ma carte n'était pas en règle parce qu'elle n'avait pas été enregistrée, et que l'on ne pourrait pas prier pour moi ce soir-là. Il me sembla que j'étais comme le paralytique de la piscine de Bethesda, qui n'arrivait jamais à temps pour se jeter dans la piscine quand l'ange venait agiter l'eau. J'étais là, devant l'estrade, très déçu. Au moment où je me suis retourné pour regagner ma place, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Si tu le veux, je te guérirai ». Je répondis « Seigneur, je le veux, gloire à Dieu ». Il redressa mon dos et guérit mon côté paralysé. Je peux me coucher dans un lit maintenant, et je dors comme un bébé, gloire à Dieu qu'il puisse ainsi guérir tous ceux qui viennent à lui. C'est ma prière. Harvey Whitcotton, Indianapolis, Indiana. Un jeune garçon de 13 ans guéri instantanément d'une poliomyélite déformante. Je veux raconter mon témoignage à tout le monde, qu'il soit lu dans vos réunions, pour que tous sachent ce que le Seigneur a fait pour moi. À l'âge d'un an, j'ai eu la poliomyélite. Je devais marcher sur l'extrémité de mes orteils. Mon talon était coincé vers le haut, et mon pied était tordu vers l'extérieur. Mercredi dernier, notre gentille voisine, Madame Oel, m'a appelé pour me demander de l'accompagner à une réunion du frère Bozo-Hort. Elle me dit que je serais guéri si j'étais bien sage. Je demandai la permission à ma tata, qui est très vieille, et qui s'occupe de la maison pour papa, depuis que maman est morte de la grippe espagnole, et elle m'a donné la permission. J'ai accompagné Madame Oel 3 soirs de suite. Vendredi soir, on a prié pour moi en moignant d'huile. À peine revenu à ma place, j'ai vu mon talon redescendre, et mon pied s'est placé sur l'autre. C'est comme si quelqu'un avait tiré mon pied vers le bas, et l'avait ensuite placé sur l'autre. Maintenant, je peux marcher normalement et me servir de mes pieds comme mes autres frères. Aujourd'hui, 3 jours après ma guérison, j'apprends à faire du patin à roulettes. Je suis le garçon le plus heureux de ma ville, j'ai 13 ans. Je veux raconter aux autres handicapés ce que Dieu a fait pour moi. Je le remercierai toujours, et je lui demanderai chaque jour d'aider d'autres garçons. John Snyder, Easton, Pennsylvania. Guérisons instantanées d'une femme muette il y a plus de 3 ans, à la suite d'une certaine maladie. J'ai complètement perdu l'usage de la parole. J'ai consulté plusieurs docteurs, qui m'ont tous dit que je ne parlerai plus jamais. Certains m'ont dit que mes organes vocaux étaient paralysés. Je n'ai plus jamais été capable d'émettre le moindre son. Je souffrais aussi terriblement de rhumatisme et de calcul de la vésicule. Mes amis essayèrent de m'empêcher d'aller à une réunion du frère Bozo-Hort, en me disant que cela ne me ferait aucun bien. J'y suis quand même allé. On a prié pour moi en moignant d'huile, et j'ai été instantanément guéri. Quand je suis retourné de l'estrade à ma place, ma voix était complètement revenue. Après 3 années de silence complet, je pouvais à nouveau parler, et je le peux toujours, gloire à Dieu. Mon pasteur, qui ne croyait pas que je pouvais être guéri, fut très surpris de voir que je pouvais lui parler quand je l'ai rencontré dans la rue. Il me dit « J'ai douté comme Thomas, mais maintenant, je suis obligé de croire. Le pasteur de l'église baptiste de Bangor m'a demandé de venir dans son église un dimanche. Je l'ai fait. » Après avoir raconté le miracle à l'auditoire, il me fit lever pour montrer à l'église comment je pouvais bien parler. J'ai aussi été guéri des rhumatismes et des calculs. Je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur pour sa miséricorde, Madame T. Hugues, Bangor, Pennsylvania. Guéri instantanément de 2 cancers, en réponse à la prière il y a 15 ans, je perdis la santé et fus obligé de quitter mon travail. Tout mon corps semblait rempli d'un poison dont les docteurs n'arrivaient pas à trouver l'origine. Pendant 12 ans, j'ai souffert atrocement, sans aucun espoir de guérison. Il y a 3 ans et demi, mon état empira tellement que je fus constamment suivi par un médecin pendant 4 mois, et j'allais pourtant de plus en plus mal. On me dit plus tard que j'avais un cancer au début du gros intestin, qui s'étendait jusqu'à la rate. Le poison se répandit dans mon bras et mon côté gauche. Je hurlais de douleur en suppliant ceux qui m'entouraient de retenir mon bras, car j'avais l'impression qu'on me l'arrachait. Plus tard, le cancer gagna ma bouche, descendit dans ma gorge et sous ma langue. Il y formait une boule tellement épaisse qu'on aurait dit une deuxième langue. Ses racines s'étendaient partout dans ma bouche. Un médecin de Philadelphie, après m'avoir soigné quelque temps, me conseilla vivement d'aller à l'hôpital de Philadelphie pour voir si l'on pouvait me faire des rayons. Après que plusieurs professeurs m'eurent examiné, ils conclurent qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Le cancer intestinal avait atteint la rate, et le cancer de ma bouche était trop près d'une artère. Je suis donc rentré chez moi pour y mourir. Mon cas était désespéré. Les hommes ne pouvaient plus rien faire. J'ai commencé à prier Dieu en lui demandant de me faire miséricorde. Je pleurais seul dans ma chambre, et parlais au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il enlève toute crainte de moi. Je me préparais à souffrir jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui. Je prenais 18 médicaments par jour, dont plusieurs pour m'empêcher de vomir, car j'avais de violents maux de tête et des crises de vomissement. J'ai souffert ainsi pendant 2 ans. Mais je remercie le Seigneur pour des amis chrétiens qui m'ont persuadé de me rendre aux réunions du frère Bozo Hort, qui se tenait à Philadelphie. Je priais à ce sujet, jusqu'à ce que le Seigneur me montre que je devais y aller. Je remercie le Seigneur de lui avoir obéi. J'ai entendu l'Évangile prêché avec puissance. J'ai bien écouté les instructions qui m'étaient données. Puis j'ai acheté le livre du frère Bozo Hort, La guérison divine par la foi en Jésus-Christ. J'ai étudié les références bibliques, et j'ai compris que la guérison était pour moi. Un lundi soir de juin, je m'avançais vers l'estrade, et je reçus l'onction d'huile pour la guérison. Loué soit Dieu, il était au rendez-vous, et je fus instantanément guéri pendant la prière. Je sentis comme un choc électrique dans tout mon corps. Il me sembla que quelqu'un saisissait le cancer sous ma langue et le tirait à l'extérieur. J'ai été complètement guéri à ce moment-là de mes 2 affreux cancers. Je n'ai plus pris aucun médicament, et je n'ai plus jamais eu de douleur. Je remercie le Seigneur que les Bozo Hort soient venus à Philadelphie. Que Dieu les bénisse. J'espère que mon témoignage aidera d'autres malades à obtenir la glorieuse délivrance que j'ai moi-même obtenue. Madame B. Edward, Camden, New Jersey. 10% peut-être des malades qui ont été guéris nous ont envoyé leur témoignage. Pourtant, nous avons déjà reçu des milliers de nouveaux témoignages depuis la publication de ceux qui figurent dans ce livre. Au cours des quelques années passées, des milliers d'auditeurs de nos émissions de radio nous ont écrit pour nous demander de prier pour leur guérison, après avoir lu nos ouvrages. Nous avons présenté ces requêtes au Seigneur dans la prière, chacune en particulier, et nous continuons à recevoir un flot de témoignages merveilleux de tous ceux qui ont été guéris de toutes les maladies possibles. Beaucoup ont été guéris par leur propre foi, qu'ils ont reçue en lisant les premières éditions de cet ouvrage. Au cours d'une seule campagne de réveil, 72 sourds-muets de naissance ont été guéris. Après avoir lu notre livre, ils avaient demandé que l'on prie pour leur guérison. Nous le répétons, à Dieu seul revienne toute la gloire, chers lecteurs. Pourquoi n'offririez-vous pas un exemplaire de ce livre à l'un de vos amis malades? Vous pourriez ainsi leur éviter une mort prématurée et leur permettre de servir le Seigneur pendant toute leur vie. Il nous faudrait encore raconter toutes les merveilles qui ont été accomplies de cette manière.